Bonjour à toutes et à tous. Le mardi dernier, lors de notre réunion hebdomadaire d'études bibliques et de prières, nous avons fait une brève étude sur une personnalité unique du livre de la Genèse. Si vous n'étiez pas présent ce soir-là, et si je vous disais seulement deux choses au sujet de cet homme, vous devinerez certainement de qui je parle. Il marchait avec Dieu, il n'est pas mort. Je ne sais pas si vous avez deviné, c'est Enoch. Depuis la chute de l'homme, c'est-à-dire lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le péché avait enveloppé toute la terre habitée par l'humanité. Et à l'époque où Enoch vivait sur la même terre, tout et tout le monde marchait contre Dieu et sa volonté. C'est dans ce scénario que nous trouvons que Enoch a marché avec Dieu. La Bible se réfère à plusieurs reprises à notre relation avec Dieu comme une marche avec Dieu. La Bible nous donne des exemples de personnes réelles, exactement comme nous, qui ont vécu leur foi. Nous avons appelé à imiter ceux qui nous ont précédés. La Bible nous dit que ces personnes suivantes ont marché avec ou devant Dieu. Enoch, Noé, Abraham, Isaac, David, Jotham, Ézéchias et Josias ou bien d'autres personnes. Et dans Genèse 48, le chapitre 48, nous voyons ici Jacob dans son lit de mort. Et Joseph est appelé au lit de Jacob parce qu'il est malade et qu'il est vraisemblablement mourant. Joseph amène avec lui ses fils Manassé et Ephraïm. Lorsqu'il arrive au chevet de Jacob, celui-ci se lève et se met à les bénir. Cette bénédiction semble être une chose courante lorsque un patriarche de la famille est sur son lit de mort. Comme je l'ai vu plus tôt dans la bénédiction de Jacob et d'Isaïe par leur père Isaac. Pendant qu'il bénit Joseph et ses fils, Jacob dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il les multiplie en abondance au milieu du pays. Que voulait dire Jacob quand il affirmait que ses ancêtres, Abraham et Jacob, marchaient devant Dieu? Que signifie marcher devant Dieu ou marcher avec Dieu? Marcher avec Dieu ou devant la face de Dieu est un mode de vie. Le terme « marche » tel qu'il est utilisé ici signifie ce conduire d'une certaine manière ou poursuivre un certain cours de vie. En d'autres termes, au lieu de marcher physiquement avec Dieu, à ses côtés, ce dont on dit qu'ils ont marché avec Dieu vivait de telle manière que si Dieu marchait vraiment à leur côté, ils vivaient ouvertement de manière transparente pour Dieu, essayant de lui plaire par la façon dont il vivait. On dit que beaucoup ont marché avec Dieu tout au long de la Bible. Le premier était Enoch, dans Genèse chapitre 5. Il est brièvement mentionné Enoch et qu'il marchait avec Dieu, puis il n'était plus parce que Dieu l'a enlevé. Plus tard, dans Genèse chapitre 6, verset 9, il est mentionné Noé et dit qu'il marchait avec Dieu. En Genèse 17, on voit que Dieu dit à Abraham de marcher devant ma face et sois intègre. En Deutéronome, chapitre 30, verset 16, Dieu nous commande de marcher dans les voies. Et dans Michée 6, 8, il est dit que le Seigneur nous demande de marcher humblement avec lui. En regardant ces exemples et ces commandements énoncés par Dieu, je pense que nous pouvons conclure que pour marcher avec lui, il faut que nous en fassions un style de vie, un mode de vie, par opposition à une visite peut-être par semaine à notre église locale. Et mes chers frères et sœurs, ce matin, je vous propose de nous pencher sur la vie d'un homme dont la Bible dit qu'il a marché avec Dieu. Noé, cet homme, apparaît dans Genèse 5, 29, comme le fils de Lémec et le neuvième descendant d'Adam. En effet, Noé est l'arrière-petit-fils d'Enoch. Enoch engendra Methuselah engendra Lémec, et Lémec engendra Noé à l'âge de 182 ans. Et qu'est-ce que ça signifie le nom Noé? Son nom signifie repos. Il vécut 500 ans et engendra trois fils, Shem, Cam et Japheth. Noé a mis 120 ans pour construire l'arche. Il a vécu 350 ans après le déluge et mourut. Dans l'histoire du déluge, on trouve en Genèse chapitre 6, verset 11, il est représenté comme le patriarche qui, en raison de sa piété irréprochable, a été choisi par Dieu pour préserver la race humaine après que tous ces méchants contemporains ont eu péri dans le déluge. Noé n'était pas un homme parfait, mais la Bible dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé marchait avec Dieu parce qu'il avait choisi de suivre les instructions de Dieu, même s'il ne les comprenait peut-être pas. Il croyait que Dieu savait ce qu'il faisait. Et ce matin, nous avons vu le pardon de Dieu. Et maintenant, nous allons voir la catastrophe qui a survenu sur l'humanité, le jugement de Dieu. Et c'est un contraste. En tant que chrétien, lorsque nous parlons généralement de l'arche de Noé et du grand déluge, tout est considéré comme des histoires, comme des contes de fées que nous racontons aux enfants pour les fasciner. À notre époque d'illumination scientifique, même les chrétiens croyant en la Bible pensent que les histoires de la Genèse ne sont que des histoires et qu'elles ne doivent pas être prises au pied de la lettre. Non, certainement pas. En tant que chrétiens, nous croyons que toute la Bible, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, est la parole de Dieu. Si nous ne croyons pas, nous faisons de Dieu un menteur. La parole nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Comment commence le livre de la Genèse? Au commencement, Dieu créa. La première phrase, c'est ainsi: au commencement, Dieu créa. Ce livre dans la Bible est le fondement de tous les autres livres, tous les autres 65 livres. Si vous enlevez la Genèse de la Bible, tout le reste s'effondrerait comme un château de cartes. Quand j'étais jeune, j'avais un gros problème pour croire à l'histoire de l'arche de Noé. Je vous le dis, même Noé lui-même aurait dû beaucoup de questions sur cette énorme structure jamais construite auparavant, qui le protégerait, lui et sa famille, avec toutes sortes d'animaux et des oiseaux, mais il a cru en Dieu et a obéi. Maintenant, voyons ce que la parole nous dit au sujet de cet homme, Noé. Lémec, père de Noé, attendait beaucoup de lui. En Genèse 5, 29, nous lisons, il lui donna le nom de Noé en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Vous vous souvenez quand, après la chute de l'homme, après le péché d'Adam et Ève, Dieu a maudit la terre. Il a dit que la terre ne produira pas le fruit si facilement. Tu devrais œuvrer, tu devrais travailler très dur pour produire, pour manger la fruit de la terre. Cependant, les choses devaient prouver le contraire pour Lémec, le père de Noé. Et ce n'était pas de la consolation. Noé n'était pas, il n'a pas amené la consolation, mais de l'irritation qu'il avait dû leur apporter, et certainement pas de repos dans le labeur. Peut-être espérait-il qu'il inventerait des moyens d'alléger le dur travail physique en ajoutant des innovations agricoles aux inventions déjà introduites dans le domaine de la musique et de la métallurgie. L'ironie était qu'il avait apporté quelque chose de complètement nouveau. Mais c'était une arche pour sauver sa propre famille du jugement de Dieu, pas quelque chose pour épargner le reste de l'humanité de sa malédiction. Maintenant, je vous prie de prendre le livre de Genèse. On va lire ce passage, Genèse chapitre 6. On va lire à partir de verset 5 jusqu'à 22. Genèse chapitre 6. On va lire à partir de verset 5 jusqu'à 22. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9, « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cam et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. » Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par derrière moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre et tu réduiras une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. Pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ce que nous dit la parole de Dieu. Et même si c'est incroyable, on a mal à concevoir comment Dieu peut faire ces choses. Mais c'est ainsi qui sont passées les choses. Au temps de Noé, le Fils de Dieu vit les filles des hommes qu'elle était belle. Il prit les femmes de tout ce qu'ils choisirent. Le désir charnel pour accomplir leur propre volonté de ceux qui sont nés dans la lignée pieuse Seth a amené les hommes à se plaire à eux-mêmes et à perdre tout ce qu'ils avaient de distinctif pour Dieu. Quoi qu'ils eussent produit, des hommes forts et des hommes de renom, on trouve en Genèse 6:4, Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Une dégradation complète s'était installée. Alors Dieu voulait détruire tout ce qu'il avait créé. Cependant, au milieu de tout cela, on trouve que « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » La parole nous dit en Éphésiens 2:8 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Cette grâce de Dieu contrôlait sa vie car Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Cependant, non seulement Noé était un homme juste, mais il prêchait la justice. On trouve en 2 Pierre 2:5, Noé, non seulement il était juste, il prêchait la justice. Mais peut-être aujourd'hui, nous trouvons les prédicateurs qui ne sont pas justes, mais ils peuvent prêcher la justice. En Corinthiens 15:10 dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Néanmoins, seule sa propre famille immédiate l'a remarqué, et ses propres frères et sœurs ont ignoré son témoignage sincère. Après Noé, les mecs, il a eu plusieurs enfants. Donc Noé, il avait, pendant le temps de déluge, Noé, il avait ses propres frères et sœurs et leur famille. Mais seulement sa femme, ses 3 fils et 3 filles étaient sauvés. Et donc, selon l'instruction de Dieu, Noé construisit une arche. Dieu parla à Noé en lui révélant ce qu'il pensait du monde dans lequel il vivait, déclarant qu'il était corrompu devant Dieu, rempli de violence, et que sa décision était que la fin de toute chair est venue devant moi. Verset 13. Mais que Noé devait ensuite construire une arche pour échapper à ce jugement à venir. Voyez-vous les choses merveilleuses qui se passent ici quand l'homme commence à marcher avec Dieu. Quand le cœur de l'homme est dans l'obéissance totale pour faire la volonté de Dieu, Dieu révèle son cœur à l'homme et déclare ses voies. Alors l'Éternel dit, ce n'est pas dans la vie de Noé, et plus tard, avec Abraham, Dieu dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est incroyable. Dieu, il révèle ce qu'il va faire à son serviteur Abraham. Certaines versions disent « à mon ami et serviteur Abraham ». Et c'est ainsi que Dieu a traité son serviteur David, un homme selon son cœur. Dieu a révélé à David ce qu'il va faire. Des instructions ont été suivies quant aux spécifications exactes de l'arche. ses matériaux de construction, sa taille et sa disposition, et tout cela. Et je pense que Noé, il a fait exactement comme Dieu a planifié, il a instruit. Aussi ingénieux qu'était Noé, il n'aurait jamais été capable de concevoir un vaisseau approprié à un tel but de survie pour tant d'espèces d'animaux différentes, ainsi que pour sa propre famille. Il n'y avait que 8 personnes, mais à part plusieurs animaux, espèces d'animaux. Noé a été motivé à construire l'arche par la foi et la crainte de Dieu. Hébreux 11, 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisit une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est ça l'explication qu'on a dans l'épître aux Hébreux par rapport à l'obéissance, par rapport à la foi de Noé. Les actions de Noé dans la construction de l'arche ont dû provoquer une réaction dans le monde impie qui l'entourait. Et cela ne pouvait être qu'une réaction de ridicule. Pourquoi les gens se moquaient-ils de Noé? Nous devons nous rappeler ici que, avant cela, la terre n'avait jamais vu de pluie. Il n'avait jamais vu de déluge. Et Noé, s'aventurant à construire une énorme structure bizarre comme celui-ci, construire un grand bateau dans la terre qui n'est pas été à côté d'une lac ou une rivière. Pourquoi quelqu'un construirait-il une structure inutile comme celui-ci qui pourrait éventuellement flotter sur l'eau et en plus cela sur la terre ferme? Mais en même temps, quand tous les gens ingénieurs de la terre ont commencé à construire une tour pour toucher le ciel, un gratte-ciel, personne n'a plaisanté sur l'idée. C'est Genèse chapitre 10. Les hommes, ils voulaient construire un grand tour qui peut toucher les cieux. Mais personne n'a moqué. Mais quand Noé était en train de construire l'arche, selon l'instruction de Dieu, les gens ridiculisaient, ils moquaient de Noé. Ce n'est que lorsque l'homme marche selon les voies de Dieu que le monde se moque de nous. Quand on marche dans ce monde comme tout le monde, on est tout à fait normal. Et c'est exactement ce que le monde demande de vous. Il demande de nous. Quand vous marchez avec le Seigneur, vous courez à contre-courant. Mais pour Noé, construire un arche selon le plan de Dieu était une chose tout à fait insensée à faire. Le monde entier se moquait de lui. Si nous avions vécu à cette époque, chacun de nous aurait fait la même chose que le peuple de l'époque de Noé. Nous aussi, on aurait pu moquer de Noé. Pourquoi Noé devrait construire un arche, un tel vaisseau qui n'était jamais vu? En plus de construire l'arche, Noé a dû travailler dans un tel monde. Peut-être en tant que fermier pour financer la construction et l'approvisionnement de l'arche. Bien sûr, en même temps que Noé prêchait la justice. Noé, il a pris le temps pour construire l'arche. Il a pris 120 ans, à peu près 120 ans pour construire l'arche. Donc, il prêchait pendant 120 ans par rapport à le jugement qui va venir. Donc, ce n'est pas un jour ou deux jours, ce n'est pas un mois ou deux mois, ce n'est pas un an ou deux ans, c'est plusieurs années, 120 ans. Noé prêchait la justice, les gens vivaient incrédules tout autour de lui, même sa propre famille. Ses frères et sœurs complètement inchangés jusqu'au jour où lui et sa famille entrèrent dans l'arche. Donc sans aucun doute, les cérémonies de mariage étaient prévues pour ce jour-là. Les anniversaires, les gens, ils achetaient, ils vendaient les choses. Avec les gens qui attendaient avec impatience un moment joyeux. Comme on dit, la vie normale de nos jours. C'est des choses normales. Jésus s'y référait cette situation dans Luc 17, 26-27. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tout périr. Quand le jour de la crise est arrivé, tout était prêt et tout se déroulait comme prévu. Le déluge vint et les fit tout périr. Regardez en Genèse chapitre 7, on va lire versets 12 à 16. Genèse chapitre 7, le verset 12 à 16. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Shem, Cam et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leurs espèces, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampaient sur la terre selon leurs espèces, tous les oiseaux selon leurs espèces, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est Dieu a ordonné à Noé de construire le bateau, l'arche. Dieu a ordonné tous ces animaux. Ce n'est pas facile d'amener les animaux vers le bateau. Même dans le cirque, ça ne passe pas comme ça. Et tous les animaux, deux par deux, il entra dans l'arche. La fin de verset 16 dit, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est lui qui décide la fin de temps. C'est Dieu qui décide. Personne ne sait quand il va fermer la porte. L'alliance de Dieu était avec lui personnellement, nous rappelant que toute notre acceptabilité avec Dieu est en Christ seul, le bien-aimé. L'arche, c'est une image de Christ, Jésus-Christ. L'énorme structure que Noé avait construite sur l'ordre de Dieu devait sembler très étrange à ceux qui l'entouraient. Très souvent, nous avons vu l'image de l'arche de Noé construite d'une manière très drôle. Il se serait certainement effondré ou chaviré s'il avait été ainsi. Parfois, nous devions désapprendre les choses que nous avons apprises. Les choses qu'on nous a apprises à réapprendre. Étrangement, c'est la chose la plus difficile à faire. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Depuis l'enfance, nous avons vu des choses, l'image qu'on a vue, on pense que c'était ainsi. Non. Et c'est très difficile à apprendre quelque chose, c'est peut-être facile. Mais désapprendre quelque chose qu'on a appris, c'est très difficile. Le monde nous bombarde d'informations qui ne sont pas vraies. Nous devons nettoyer cela à chaque fois, comme la poussière qui se dépose dans votre maison, à la lumière de la parole de Dieu. Cependant, il n'a pas été construit, l'arche n'était pas construite pour la beauté, mais pour l'utilité, avec ses trois étages, ses chambres, sa fenêtre et sa porte. Il était parfaitement planifié pour préserver la vie humaine et animale à travers le jugement du déluge. Noé était entièrement responsable de la construction et de l'approvisionnement de l'arche. mais cela ne pouvait être fait correctement que par son strict respect des instructions divines. Et en effet, à trois reprises, on nous parle de l'obéissance implicite de Noé au Seigneur. Regardez dans chapitre 6, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse 6, 22. Et Genèse 7, 6, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est pareil comme plus tard dans la vie de Moïse, dans le livre de Lévitique, ou Exode, nous voyons que tout ce que Dieu a ordonné, il exécuta exactement. Et Genèse 7, 9, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Noé regarda dehors et constata que le sol était sec, après le déluge, mais même alors, il ne quitta pas l'arche. Ce n'est que lorsque Dieu a dit, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » Genèse 8, 16, qu'il s'en alla, voyant le monde de nouveau du haut de montagne d'Ararat. Nous pouvons résumer la vie de Noé jusqu'à présent en termes de foi. Regardons Hébreux 11, versets 6 à 7. Hébreux chapitre 11. On trouve la plus grande liste de la foi. Hébreux 11, versets 6 à 7. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, on a vu que Noé marchait avec Dieu. Et comment il a pu marcher avec lui, avec Dieu? Car il était agréable à Dieu. Sinon, il ne peut pas marcher avec Dieu. Mais Hébreux dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qu'il obtient par la foi. Noé a marché avec le Seigneur par la foi et dans l'obéissance, comme nous chantons souvent le vieil hymne « Croire et obéir ». Croire, obéir. Lorsqu'il sortit de l'arche, Noé bâtit un autel et offrit en holocauste les animaux purs et les oiseaux, et l'Éternel sentit une odeur, bonne odeur de son sacrifice. Il a fait alliance avec Noé et n'a promis aucune malédiction supplémentaire et des saisons régulières. Donc, marcher avec Dieu, c'est avoir foi en Dieu. Marcher avec Dieu, c'est avoir foi en Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu sans la foi. On ne peut pas marcher avec Dieu sans la foi. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Marcher avec Dieu, c'est recevoir la grâce de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est recevoir la grâce de Dieu, être un récipient de la grâce de Dieu. Et les paroles, nous avons lu, hein, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a vécu à une époque mauvaise, quand tout le monde marchait contre Dieu. Noé, il était en train de marcher avec Dieu. Quand le monde entier, il était dans le péché, mais Noé, elle a pu garder sa vie juste devant Dieu. Pas juste devant les hommes, mais juste devant Dieu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez, chaque jour uniquement vers le mal. Ce n'est pas un autre, mieux qu'un autre jour. Mais il n'y avait pas d'espérance. Il n'y avait pas d'espérance. Même à notre époque, nous voyons des géants et des héros dans différentes disciplines et dans les différents domaines de la vie. Parce qu'à l'époque, juste avant que Dieu, il trouve que le cœur de l'homme, il est mauvais, il faut le détruire. Mais nous voyons qu'il y avait des gens à cette époque, il y avait des géants et des héros, les hommes vaillants. Même à notre époque, nous voyons des géants et des héros dans différentes disciplines et dans différents domaines de la vie. Ne laissez pas tomber vos mâchoires et en admiration pour, comme le reste du monde, pour les admirer et pour les adorer. Voyons la réalité. Comment le Seigneur regarde notre vie dans ce monde. Le monde, il peut avoir une adoration, il peut adorer les grands idoles, les grands, les vaillants de ce monde. Mais il faut voir comment Dieu, il voit l'homme, le cœur de l'homme. Mais à cette époque, Dieu voyait que le cœur de l'homme était mauvais, mauvaise. Parfois, nous mettons les gens sur un piédestal. Nous lisons les Écritures et pensons à la justice de Daniel, Noé et Joseph. Ils devaient être le super croyant, n'est-ce pas? Nous pourrions faire la même chose à l'égard des hommes et des femmes de foi moderne ou historique. Lorsque nous faisons cela, l'attention est détournée de Dieu et placée sur l'homme. Tous les grands de la Bible, de grands hommes et des femmes de la Bible, ils sont des pécheurs. Noé inclus. Tout le monde est des pécheurs. Ils sont tous chutés, sauf le Seigneur Jésus-Christ. De plus, lorsque nous élevons des gens sur un piédestal, nous nous plaçons dans une catégorie différente de la nôtre. Nous commençons à penser, Daniel pourrait avoir l'audace de donner sa vie pour le Seigneur, mais je ne suis pas Daniel. Ou Noé pourrait construire une arche pour le Seigneur, mais je ne suis pas Noé. Noé, il a pu supporter les moqueries et le ridicule, mais moi, je ne suis pas Noé. Mais souvent, il y a une pensée courante que une vie pieuse, c'est pour des pasteurs, des anciens, et des autres, pas pour moi. Moi, vous ne pouvez pas me demander de faire de telle chose. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu, sans exception. On ne peut pas nous exclure d'une certaine catégorie de gens. Ensuite, nous nous donnons des excuses pour ne pas servir fidèlement le Seigneur comme nous le devrions. Daniel et Noé ont reçu la grâce, certes. Oui, nous apprenons d'eux d'importantes leçons sur le caractère, la diligence et la fidélité chrétienne. Mais n'oublions pas la plus grande leçon, ils ne pouvaient faire aucune de ces choses que parce que Dieu avait d'abord déversé sa grâce merveilleuse sur eux. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous devrions recevoir la grâce de Dieu. Nous ne devrions attendre la grâce de Dieu pour notre vie. De tous les peuples du monde, Noé et sa famille ont été les seuls à être sauvés du déluge. C'était des pécheurs, mais contrairement aux autres, ils n'ont pas reçu la punition qu'ils méritaient. Comme tous les croyants, à travers de l'histoire, ils ont été sauvés par la grâce, par la foi. Je crois que Noé était ici aujourd'hui, il serait le premier à minimiser ses propres actes et à nous parler de la grâce de Dieu envers lui. Il ne peut pas dire que je marchais avec Dieu, c'est pourquoi Dieu m'a choisi de faire une telle chose. Il doit simplement dire que je trouvais grâce aux yeux de l'Éternel. Il m'a sauvé. Jésus ne m'a pas regardé et n'a pas dit, il y a quelqu'un qui est digne de marcher avec moi. Personne n'en est digne, c'est toute sa grâce. Personne ne peut marcher avec Dieu sur la base de ses propres mérites. Pensez à votre propre vie. Quels sont les pires péchés que vous ayez commis? Nous n'en sommes pas dignes. Et pourtant, comme Noé, nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Chacun de nous, on peut avoir une relation avec Dieu. Ce que Dieu désire. Tous ces péchés qui vous sont venus à l'esprit sont effacés lorsque vous acceptez la mort de Christ sur la croix en votre nom. Vous êtes un récipient de la grâce. Nous sommes le récipient de la grâce de Dieu. Soyons toujours conscients de ce fait et n'oublions jamais de l'en remercier. Marcher avec Dieu n'est possible que par la grâce. Et la grâce seule. Il faut rappeler que Noé n'était pas un homme parfait. Dans ce climat, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais cela ne veut pas dire qu'il était un homme parfait. Quand le texte dit que Noé était juste et irréprochable, cela ne signifie pas que son salut a été mérité. Hébreux 11:7 dit qu'il devint héritier de la justice qui vient par la foi. Noé était un pécheur comme vous et moi. Quand Noé est sorti de l'arche après le déluge, il s'est enivré. C'est une triste histoire. Il est probable qu'il ait été déprimé lorsque le poids de la catastrophe s'est abattu sur lui. Il a perdu toute sa famille, tous ses ancêtres, tous ses amis. Lui et sa famille étaient les seules personnes qui restaient sur terre. Alors pourquoi Noé et sa famille ont-ils été sauvés? L'Écriture sont claires sur le fait que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Éphésiens 2, 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On ne peut pas avoir un billet, on ne peut pas entrer dans l'âge en payant un billet. Lorsque nous lisons de ce récit de grand déluge de l'époque de Noé, Dieu a détruit toute la terre et tous les êtres vivants. Nous voyons la catastrophe et la destruction. Mais ce matin, nous avons chanté, nous avons beaucoup contemplé sur le pardon de Dieu. Mais imaginez la scène dans ces jours de Noé. Tout était détruit. Il n'y avait que de pourriture. Tout était détruit. Toute la création de Dieu. Tout ce que Dieu créa, il a dit que c'était bon. Il a vu que c'était bon. Et Dieu a dû détruire tout cela. C'est incompréhensible quand nous chantons le pardon de Dieu, quand nous glorifions Dieu pour son pardon. Mais pourquoi et comment un Dieu miséricordieux, plein de grâce, il peut détruire le monde entier? C'est une question naturelle. En fait, Dieu était à l'œuvre pour garder sa promesse. Dieu l'a fait une promesse à l'humanité. Et Dieu était à l'œuvre pour garder sa promesse à l'humanité déchue. La sémence promise de la femme. Ève a d'abord pensé qu'il s'agissait de Caïn. Après, elle a pensé que peut-être c'est Abel. Mais Caïn tua son frère et tomba dans le péché de ses parents, Adam et Ève. Vous savez, quand, après le quand Dieu l'a maudit, chacun, Adam, Ève et le serpent, il dit à Ève, je mettrai l'inimitié entre toi, quand il parle au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pardon. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous trouverez cette dans la généalogie de Jésus, la semence de la femme, la semence promise. Et on trouve dans la généalogie de Luc, la semence promise. Pour protéger la semence promise, Dieu devait détruire le monde rempli de péchés, afin que la semence promise détruise le vieux serpent et le péché pour toujours. Il se peut que nous ne comprenions pas ou ne sachions pas ce que Dieu fait. Le plan de Dieu atteindrait sûrement son but. Parfois, nous sommes dans le noir. Nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire. C'est incompréhensible à notre petit cerveau. On ne comprend pas comment le plan, comment Dieu fait ces choses merveilleusement. Mais Dieu, il a un grand plan que nous ne voyons pas. Parfois, je ne sais pas si vous avez fait le puzzle, hein. On peut prendre une petite pièce de puzzle dans la main, on ne sait pas où mettre. Mais Dieu, il voit l'image en entier. Il sait exactement où se mettre cette petite pièce. Le plan de Dieu est grand. Dieu, il est infiniment grand et nous sommes infiniment petits. Nous devrions accepter ça. Nous devrions accepter ça. Nous avons mal à accepter. Nous, on veut tout savoir sur le plan de Dieu. Et nous sommes, en plus de tout cela, nous sommes égoïstes. On pense qu'à nous. Nous pensons à nous-mêmes. Et nous voyons le monde à travers de moi. Et c'est pourquoi on voit mal les choses. Mais Dieu, il a un grand amour pour tous ses enfants. Et quand Dieu il veut sauver une petite poignée de personnes, Noé et sa famille, il savait que par cette famille, Jésus-Christ il sera né dans ce monde. Le sauveur viendra de cette petite famille un jour. Et donc Dieu il a pu voir plus loin la croix de Christ et ce que la croix de Christ accomplira. Donc Dieu devait détruire le monde rempli de péchés afin que la semence promise détruise le vieux serpent et le péché pour toujours. Il se peut que nous ne comprenions pas ou ne sachions pas ce que Dieu fait. Le plan de Dieu atteindra sûrement son but. Le psalmiste dit dans le psaume 25, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. » Ça devrait être notre désir. Pour marcher avec Dieu, nous devrions comprendre la voie de Dieu. Et même prêt à marcher avec lui, même à travers de la vallée de la mort, mais il sera là avec nous. « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. » Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Donc le plan de Dieu est éternel. Et nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu fait. Mais aujourd'hui, nous comprenons mieux, nous qui vivons après la croix, ce que Dieu l'a accompli sur la croix de Calvaire, à travers de son Fils Jésus-Christ. Que Dieu soit loué pour sa sagesse, pour son grand amour, pour sa grâce et pour sa miséricorde envers nous les pécheurs. Et par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous sommes dans l'émerveillement devant ta grandeur. Tu es un Dieu qui est infiniment grand. Seigneur, ta sagesse est sans limite, mais nous sommes infiniment petits devant toi et bien souvent sans compréhension, sans sagesse, sans intelligence. Et nous sommes des pécheurs. Seigneur, merci parce que tu as jeté ton regard sur nous. Merci parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, nous avons mérité la mort, le jugement et la condamnation. Mais Seigneur, tu nous as sauvés par ta grâce. Seigneur, nous te remercions, Père, pour ce grand amour envers nous. Seigneur, donne-nous la patience pour voir que tu es en train d'accomplir ton projet, ton plan. Et que, Seigneur, ton plan est meilleur pour notre vie et pas nos projets. Seigneur, l'homme, il peut faire le projet pour sa vie, mais ce que toi, tu as prévu pour chacun de nous, Seigneur, est le meilleur. Aide-nous à croire et obéir à notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Et pas seulement en ce moment, mais chaque jour de notre vie et dans chaque instant, chaque situation, même si les choses ne sont pas faciles. Seigneur, quand tout semble adverse à notre vie, Seigneur, aide-nous à te croire que tu nous abandonneras jamais et tu fais ce qui est meilleur pour nous. Aide-nous à avoir cette relation personnelle avec toi, comme ces hommes de Dieu ils ont pu avoir avec toi, de marcher devant toi humblement, devant ta face, Seigneur, toute la vie. Seigneur, donne-nous la persévérance pour marcher pas à pas avec toi. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.